Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 4 août. Avec vous, Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse. Au sommaire, le journal Les Sports, le journal de la semaine en France, un détour en Australie méridionale avec l'Alliance française d'Adélaïde et le programme culturel au menu. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce mardi, 11 nouveaux décès et 439 nouveaux cas de coronavirus dans le Victoria depuis hier. La police du Queensland a intercepté 3 hommes accusés d'être entrés illégalement dans l'État. L'Organisation mondiale de la santé rassemble une équipe pour enquêter sur la source de l'infection du coronavirus, mais elle déclare que les origines peuvent ne pas être à Wuhan, en Chine. Le gouvernement du Victoria introduit des sanctions plus sévères pour les personnes qui ne parviennent pas à rester isolées avec des amendes de 5 000 $ pour les infractions. Le personnel de la défense et les responsables de la santé ont frappé à la porte de plus de 3 000 personnes et dans plus de 800 cas, ces personnes n'étaient pas chez elles. 11 autres personnes sont décédées des suites du coronavirus depuis hier. Tous les derniers décès liés au COVID-19 et liés au secteur des soins pour les personnes âgées. 439 nouveaux cas ont été recensés depuis hier. Le Premier ministre du Victoria, Daniel Andrews, avertit que le personnel de la défense et les responsables de la santé vont continuer à frapper à la porte des gens plusieurs fois et au hasard et que tous les contacts étroits seront vérifiés.
Those door knocks, you are expected to be found at home. And now that the exercise provision is gone, and again, that is not a decision made lightly, but it is incredibly important. The police are able to establish, well, first the ADF and authorised officers, and then subsequently police for anyone who isn't. It's incredibly important. Stay at home means stay at home.
La ministre de la police du Victoria, Lisa Neville, a condamné une minorité de personnes qui mettent la vie des gens en danger. Madame Neville a révélé qu'au cours des dernières 48 heures, depuis le couvre-feu imposé, des dizaines de personnes ont volontairement agi contre la loi concernant les règles et les restrictions sanitaires. Une policière s'est fait frapper à plusieurs reprises à la tête dans le béton par une femme qui refusait de porter un masque à Frankston. La policière de 26 ans s'est approchée d'une femme qui ne portait pas de masque et la confrontation est devenue violente. Le commissaire de police Shane Patton rappelle aux Victoriens que personne n'est au-dessus des lois.
That behavior is just totally unacceptable. They're not wearing a mask, they're approached and they're asked their reason why not, and then to react like that is just completely over the top. We've seen them at checkpoints baiting police, not providing their name and address. We've had to smash the windows of people in cars and pull them out of there so they could provide their details because they weren't telling us where they were going. We will not hesitate to issue infringements, to arrest you, to detain you where it's appropriate.
Révélation qu'un homme atteint de COVID-19 qui avait l'autorisation de prendre l'avion de Nouvelle-Galles du Sud au Queensland était un personnel de sécurité, pas un membre du personnel consulaire. L'homme qui a été testé positif et qui est isolé était récemment revenu de Kaboul en Afghanistan et a obtenu une exemption pour entrer dans l'État. Il a obtenu la permission de voyager en avion sans avoir à entrer en quarantaine et les responsables de la santé tentent maintenant de retracer les passagers du vol Jetstar. La première ministre du Queensland, Anastasia Palaszczuk, a déclaré que l'affaire ferait l'objet d'une enquête.
I will be raising this at National Cabinet. There have been some reports going around. I have now asked these documents have all been forwarded to the police commissioner to investigate. Our understanding is that a letter was provided on DFAT letterhead.
Trois hommes qui sont entrés illégalement dans le Queensland en provenance du Victoria seront présentés devant un tribunal après avoir passé du temps dans une zone où circule le coronavirus. Ils sont arrivés à Coolangatta au Queensland le 2 août dernier après avoir traversé la frontière de la Nouvelle-Galles du Sud. Les hommes ont été testés pour le COVID-19 et les autorités sanitaires attendent les résultats craignant qu'ils ont passé du temps à Melbourne. Le commissaire adjoint de la police du Queensland, Steve Golschewski, a déclaré que les hommes étaient sous surveillance dans un hôtel de Brisbane.
But what they're doing by telling lies deliberately is having themselves charged with criminal offences and now having to front court down the track and then answer for their actions in a court of law. That to me seems to be very unacceptable behaviour.
Deux écoles de Sydney ont fermé leurs portes après que trois étudiants ont reçu un test positif de coronavirus ce mardi. Le lycée Bonnie Rigg et l'école publique du parc Greenway ont fermé pour un nettoyage en profondeur. Les élèves suivront leur classe de chez eux. Le Conseil australien des syndicats, les CTU, exige que les travailleurs reçoivent une compensation au taux de salaire normal car le congé maladie à cause de la pandémie est proche du salaire minimum. Les CTU soulèvent des inquiétudes concernant le montant de 1 500 $. La présidente de les CTU, Michelle O'Neill, a déclaré sur Channel 7 qu'un travailleur sur trois n'avait pas accès à un congé payé en Australie.
And people who stop and get tested, they're protecting all of us. They're actually saving lives and saving jobs. So we want to make it as easy as possible, encourage people to stop, get tested and isolate. So that's why we want it paid through normal payroll.
L'aide financière sera disponible plusieurs fois pour les travailleurs s'ils ont besoin de s'isoler ou de passer un test de coronavirus. Les travailleurs du Victoria sans congé de maladie pourront obtenir le paiement fédéral chaque quinzaine lorsqu'ils seront isolés. Anthony Albanese du Parti travailliste, leader du Parti travailliste, exhorte le gouvernement à veiller à ce que le Parlement puisse se réunir en toute sécurité alors qu'un comité examine la façon dont la pandémie COVID-19 a été gérée. Une enquête du Sénat entend ce mardi des preuves sur la réponse du gouvernement au coronavirus et l'opposition souhaite un examen plus approfondi du secteur des soins pour les personnes âgées. Anthony Albanese a déclaré que le Parlement devait se réunir le 24 août prochain et qu'il n'y avait aucune preuve de propagation du coronavirus lors des précédentes séances des travaux parlementaires. L'Organisation mondiale de la santé rassemble une équipe pour enquêter sur la source de l'infection du coronavirus, mais elle déclare que les origines peuvent ne pas être à Wuhan, en Chine. Les chercheurs chinois ont déjà concentré leurs efforts sur les marchés des fruits de mer de Wuhan, mais le docteur Mike Ryan de l'OMS affirme qu'il existe des lacunes épidémiologiques. Les chercheurs espèrent que de nouvelles études approfondies permettront de déterminer quelles espèces animales ont transmis le COVID-19 à la population humaine. Le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, n'est pas optimiste sur l'arrivée d'un vaccin contre le coronavirus pour de sitôt. Pour le moment, il faut appliquer les mesures de prévention, a-t-il déclaré.
Un certain nombre de vaccins sont actuellement en phase 3 d'essais cliniques et nous espérons tous disposer d'un certain nombre de vaccins efficaces qui peuvent aider à prévenir l'infection. Cependant, il n'y a pas de solution miracle pour le moment et il n'y en aura peut-être jamais. Pour l'instant, afin de contenir les flambées du COVID-19, il faut revenir aux principes de base de la santé publique et du contrôle des maladies. Tester, isoler et traiter les patients. Rechercher et mettre en quarantaine leurs contacts. Faites tout cela. Nous devons informer, responsabiliser et écouter les populations. Faites tout cela. Quant aux particuliers, ils doivent maintenir la distanciation physique, porter un masque, se laver les mains régulièrement et rester en toute sécurité loin des autres. Faites tout cela. Le message aux citoyens et au gouvernement est clair. Faites tout cela.
En Allemagne, 150 000 élèves ont repris hier le chemin de l'école après la fermeture des établissements en mars dernier pour cause de pandémie de coronavirus. Mais le nombre des cas est reparti à la hausse depuis 2 semaines en Allemagne, comme nous l'explique Pascal Thibault pour RFI.
La région, peu frappée par la pandémie comme les autres lenders de l'est du pays, a opté pour un retour quasi complet à la normale. Contrairement à ce qui a été décidé ailleurs, le port du masque n'est prévu ni à l'extérieur ni à l'intérieur des écoles et encore moins dans les salles de classe. Les mesures d'hygiène habituelles et les gestes barrières sont de mise pour éviter qu'un établissement ne ferme complètement si des infections s'y déclarent. Des groupes allant jusqu'à 400 enfants et regroupant différentes classes ont été constitués. Chaque groupe ne doit pas du tout être en contact au sein de l'école avec un autre pour limiter les risques. En cas d'infection, seule une partie des élèves devrait donc être mise en quarantaine. Ceux qui étaient en vacances dans un pays à risque devront en revanche s'y soumettre, sauf à produire 2 tests négatifs. Les enseignants pourront en effectuer toutes les 2 semaines s'ils le souhaitent. Parmi ces derniers, certains ne sont pas des plus rassurés. Ceux qui font partie de groupes à risque travailleront depuis chez eux. Les parents d'élèves dans la région saluent ce retour quasi complet à la normale. D'autres lenders sont plus stricts et prévoient le port du masque dans les couloirs des écoles. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie veut même l'imposer durant les cours.
Le Covid-19 frappe aussi le secteur bancaire en Grande-Bretagne. La HSBC, la banque, enregistre une chute de 77% de ses bénéfices. Explication de Altine Lazage pour RFI.
HSBC a réalisé près de 2 milliards d'euros de bénéfices nets au premier semestre contre 8 milliards et demi à la même période l'année dernière. Selon l'établissement financier, plusieurs facteurs expliquent cet effondrement. Tout d'abord, la pandémie. À cause de la Covid-19, les défauts de remboursement d'entreprises ont fortement augmenté, surtout au deuxième trimestre. La banque a aussi souffert de la chute des taux d'intérêt, de la grande volatilité des marchés et surtout de la guerre commerciale sino-américaine. En effet, les tensions entre les 2 premières puissances économiques mondiales pèsent sur les clients de la banque en Asie, où HSBC réalise la moitié de ses revenus. La Chine et Hong Kong sont d'ailleurs ses principales zones de croissance. Les événements politiques dans l'ex-colonie britannique ont d'ailleurs aussi des conséquences sur l'activité de l'établissement financier. L'économie de Hong Kong s'est fortement contractée même avant l'apparition du coronavirus. Face à cette situation, HSBC compte réactiver le plan de suppression de 35 000 emplois annoncé en février, suspendu à cause de la pandémie.
L'ouragan Isaias devrait toucher la Caroline du Nord et du Sud aux États-Unis avant de remonter la côte est du pays. Lundi, l'ouragan s'est renforcé pour devenir un ouragan de catégorie 1 avec des vents forts, des tempêtes, de fortes pluies et d'inondations possibles et soudaines attendues. Le gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper, a exhorté les résidents à suivre les ordres d'évacuation car la tempête tropicale pourrait emmener des vents dangereux.
That means we must be on high alert. This storm will bring dangerous weather conditions to much of our state overnight. Heavy rains, flash floods, and storm surge can quickly inundate low-lying areas. Stay inside during the heavy winds and watch for tornadoes.
En Afrique, en Côte d'Ivoire, manifestation devant les bureaux de la commission électorale après la radiation de l'ancien président Laurent Gbagbo des listes électorales. Reportage de Sébastien Nemeth pour RFI.
Les partisans de Laurent Gbagbo sont venus manifester devant la commission électorale et accompagner de leur chant 3 leaders de l'EDS. Ces derniers ont été reçus par le président de la CEI. Ibrahim Koulibaly Kouibière a tenu à rester conciliant, même si certains pro-Gbagbo ont déjà mis en cause la neutralité de la commission. Il a d'ailleurs rappelé que c'était le ministère de la Justice qui décidait les radiations, mais qu'un recours était possible.
La commission électorale indépendante n'a pas intérêt de radier les gens à tour de bras sur la liste électorale. On a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie pour demander à la population de se faire enrôler sur la liste électorale. Ça aurait servi à quoi? Rien n'est perdu. À partir du 5 août, le contentieux est ouvert. Vous venez avec les documents justificatifs pour solliciter son inscription sur la liste électorale.
La radiation de Laurent Gbagbo serait liée à sa condamnation en 2018 à 20 ans de prison dans l'affaire du braquage de la BCEAO. En tout cas, le président de l'EDS, Georges Armand Ouéguen, a promis d'aller au bout de la procédure.
Nous avons été surpris de ne pas voir son nom. Et nous allons nous préparer pour le contentieux électoral pour prouver que le président Laurent Gbagbo mérite et devra être inscrit sur la liste électorale. C'est un droit et nous allons apporter la preuve pour le président Laurent Gbagbo.
L'EDS pourra déposer son recours entre mercredi et vendredi. La CEI aura ensuite 3 jours pour statuer. Si l'EDS n'est pas satisfait, le mouvement pourra se tourner vers la justice de droit commun. Bref, le feuilleton promet de s'étaler encore sur plusieurs jours, voire semaines.
On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 17 degrés, Adélaïde 14, Melbourne 11, Hobart 8 degrés, Canberra 11, Sydney 22, Brisbane 24, Cairns 27, Darwin 30 et à Alice Springs, maximal de 29 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi, 11 nouveaux décès et 439 nouveaux cas de coronavirus dans le Victoria depuis hier. La police du Queensland a intercepté 3 hommes accusés d'être entrés illégalement dans l'État. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Le journal des sports, tennis, retour pour les dames avec le tournoi de Palerme en Sicile qui a débuté hier, mais d'abord le point sur les mesures en place avec Martin Guèze pour Radio France Internationale.
Premier service pour le tennis mondial, mais gare à la faute, car tous les regards sont braqués sur Palerme, où les médecins en combinaison enchaînent les tests avant la reprise, et où un premier cas positif a été détecté, soit une alerte de plus qui s'ajoute au forfait de la numéro 2 mondiale, la Roumaine Simona Halep, qui a préféré renoncer avant même avoir repris du service, à cause des quatorzaines imposées par l'Italie pour toute personne venant de Roumanie ou de Bulgarie. C'est donc un climat pesant qui entoure cette reprise, après le déjà très commenté et très contesté Adria Tour, tournoi d'exhibition dans les Balkans organisé par Novak Djokovic. Le tennis mondial craint de s'offrir une nouvelle mauvaise publicité, alors que les choses sérieuses arrivent à la fin du mois, car après le report de Roland-Garros et l'annulation historique de Wimbledon, l'US Open doit se jouer à ses dates habituelles. Un grand chelem déjà privé de grandes stars, l'Australienne numéro 1 mondial Ashley Barty et son compatriote Nick Kyrgios, en raison des risques liés à la pandémie aux États-Unis. Mais avant la grand-messe du grand chelem, répétition générale le 22 août à Flushing Meadows, où le Master de Cincinnati trouvera exceptionnellement refuge avec Rafael Nadal, Djokovic et Serena Williams à l'affiche.
Et la Française Kristina Mladenovic a été éliminée par Ekaterina Alexandrova, la Russe, dixième mondiale en trois manches, 5-7, 6-0, 6-1. La Russe Anastasia Paliouchenkova, 30e mondiale, n'est pas à Palerme, mais elle se prépare pour la semaine prochaine, le tournoi de Prague. On l'écoute en français.
Je pense que tout le monde acceptait de finalement commencer sur circuit parce que ça fait presque 5 mois. Mentalement, on n'est pas à 100% parce qu'il y avait 2 filles qui étaient positives. Donc déjà, c'est pas bien pour demeurer premier tournoi après pandémie. Pour l'image, pour nous, c'est pas terrible. Et il y a toujours des confinements, quoi, comme en Barcelone. Là, maintenant, on n'est toujours pas 100% sûr pour l'US Open et pour les tournois européens comme Madrid et tout ça. Donc, j'espère qu'on peut quand même jouer quelque chose cette année et continuer notre saison.
Tennis toujours après Ash Barty, c'est au tour de Nick Kyrgios, l'Australien, d'annoncer qu'il n'ira pas à New York pour l'US Open. Formule 1, le Grand Prix de Grande-Bretagne, remporté par le fils du sol, Lewis Hamilton. Tom Rossi, Radio France Internationale.
Pilote Mercedes se souviendra longtemps du dernier tour de son Grand Prix chez lui à Silverstone. Lewis Hamilton a dû finir la course sur 3 roues. Le pneu avant gauche de sa monoplace a crevé lors du dernier tour. Quand cela se produit, il lui reste la moitié du circuit à parcourir. Ses 30 secondes d'avance sur le deuxième, Max Verstappen fonde. Mais au final, il franchit la ligne 5 secondes avant le pilote Red Bull. C'était moins une pour Lewis Hamilton qui remporte là sa 87e victoire en Formule 1.
Très honnêtement, je ne savais pas si j'allais arriver au bout. Tout ce que je voulais, c'était de franchir la ligne le plus vite possible. Mais à chaque fois que j'accélérais, le pneu était à deux doigts d'éclater. Donc je devais garder le rythme. En même temps, la voiture ne tournait pas très bien. Il fallait trouver le meilleur moyen de prendre les virages. C'était le tour le plus excitant que j'ai eu en course.
Lewis Hamilton qui s'envole au classement général à l'issue de ce quatrième Grand Prix. À noter la troisième place du monégasque Charles Leclerc sur ce circuit de Silverstone, et le français Esteban Ocon se classe lui sixième.
On passe au foot, le foot féminin dimanche avec la victoire en demi-finale des Parisiennes contre les Girondines de Bordeaux, 2-1, et de Lyon contre Guingamp, 1-0. Écoutons le sélectionneur de Lyon, Jean-Luc Vasseur.
Il y a un retour après 4-5 mois de non-compétition. Ouais, c'est quelque chose, on les a préparés physiquement, techniquement. Mais après, il faut rentrer dans la compète avec les enjeux, parce qu'on savait qu'il y avait des enjeux. Et quand en face, vous avez une équipe qui joue crânement son jeu, qui nous a posé quelques difficultés tactiques, tant mieux. Parce que voilà, il faudra aussi se préparer à jouer ce type d'équipe. C'est à nous de trouver les solutions pour la semaine prochaine, pour effectivement aborder cette finale en se mettant les meilleures chances de la remporter de notre côté.
La finale de la Coupe de France féminine aura lieu dimanche prochain à Auxerre. Football toujours, et retour sur Arsenal qui a gagné la FA Cup samedi. Eh bien, les Gunners ont aussi du coup validé leur billet pour la Ligue Europa la saison prochaine après leur victoire contre Chelsea. Christophe Diremzian, Radio France Internationale.
De quoi sauver une saison bien terne, conclue par une huitième place en championnat qui ne leur procurait que des regrets. La Cup, très jolie lot de consolation, remportée aux dépens de Chelsea 2-1. Les Blues étaient pourtant partis pied au plancher avec une ouverture du score dès la cinquième minute signée Pulisic, mais Arsenal a renversé le cours des choses grâce à un seul homme, son capitaine, Pierre-Emerick Aubameyang, un penalty peu avant la demi-heure de jeu. Une balle piquée dans la surface en seconde période, le Gabonais réédite le doublé de sa demi-finale contre Manchester City, offre un premier titre à son entraîneur Mikel Arteta, et il est bien sûr content d'avoir surmonté un début de match un peu compliqué.
Nous avons fait une mauvaise entame, mais après tout le monde a réagi avec la bonne attitude. On s'est tous donné à 100% pour l'équipe, nous méritons cette victoire. Le parcours a été long, aujourd'hui on savoure et je suis très content pour le club et mes coéquipiers.
Pierre-Emerick Aubameyang qu'Arsenal aimerait bien prolonger. Nul doute qu'avec la Coupe et la place européenne, ça devrait faciliter les choses.
Et puis au Cameroun, Lyon indomptable s'est éteint, comme nous l'explique Sylvie Berruet pour RFI.
Stéphane Tatto, 57 ans, est mort des suites d'une maladie. C'est ce que nous a appris ce vendredi la Fédération Camerounaise de Football. L'ancien arrière-droit est mort ce matin à Yaoundé, ville de ses débuts, où il fit des malheurs avec le tonnerre. Stéphane Tatto qui a réalisé la majorité de sa carrière au Cameroun, faisant ensuite les beaux jours de l'Olympique Molvier. Mais c'est surtout en tant que capitaine de la sélection qu'il a marqué les esprits, vainqueur de la CAN 1988 au Maroc. Évidemment, leader des Lions lors du Mondial italien en 90, où les Camerounais se sont hissés jusqu'en quart, une première dans l'histoire d'une équipe africaine. L'ancien latéral droit était récemment pressenti pour reprendre la tête de la sélection, mais avait vu Clarence Seedorf lui être préféré.
En athlétisme, nouvelle suspension pour la Russie. Explication de Christophe Diremzian pour RFI.
Novembre 2015, le pays est suspendu après la découverte d'un immense système institutionnalisé de dopage d'État. Depuis, la Russie pouvait tout de même présenter quelques athlètes qui n'auraient pas été impliqués dans cette affaire sous bannière neutre durant les compétitions. C'était un petit privilège qui pourrait disparaître si la Fédération internationale réunie aujourd'hui et demain en décide ainsi, Christophe Diremzian.
Fauchée, la Fédération russe d'athlétisme est-elle en train de ruiner les derniers espoirs de sa poignée de sportifs intègres de voir les Jeux de Tokyo? Tout porte à croire que World Athletics ne fera preuve d'aucune mansuétude à l'égard d'un pays montré du doigt pour dopage institutionnalisé et désormais mauvais payeur. Car en plus de son passif en matière de tricherie, la RUSAF a une dette à régler, une amende de 5 millions de dollars pour avoir trouvé un alibi au vice-champion du monde 2017 de saut en hauteur, Danil Lysenko, passible d'une sanction pour défaut de localisation pour contrôles inopinés. Elle avait jusqu'au 1er juillet pour payer, elle n'a toujours pas pu le faire, expliquant que ses caisses étaient vides. Or, le paiement de cette amende est la condition du feu vert de la Fédération internationale à la participation aux Jeux Olympiques de 10 athlètes sous bannière neutre. Cet épisode risque donc de rapprocher un peu plus le sport russe de la disparition complète de l'échiquier mondial, car une autre échéance est encore plus menaçante. En novembre prochain, le tribunal arbitral du sport doit en effet examiner l'appel de l'Agence nationale antidopage de Moscou face à la décision de l'AMA d'exclure purement et simplement la Russie
aussi des JO et des autres compétitions internationales pour 4 ans.
Vous écoutez le programme en français et dans 36 secondes, on retrouve Christophe Mallet et Émile Matasso pour le journal de la semaine en France.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et comme chaque mardi, place à l'actualité française. Pour nous en parler, nous sommes avec Émile Matasso. Bonjour Émile.
Christophe, bonjour. Bonjour à tous.
Alors à la une, les vacances du gouvernement.
Oui, comme tous les Français, les ministres, eux aussi, ont le droit de couper un peu. Le président de la République, Emmanuel Macron, leur a donné plus de 3 semaines pour qu'ils rechargent les batteries. Le dernier Conseil des ministres, il s'est tenu le mercredi 29 juillet. Le prochain aura lieu le 24 août. Une vraie coupure dont tout le monde a besoin, même si nombre de ministres viennent tout juste de prendre leurs fonctions, puisque le chef de l'État a opéré, on le sait, un grand chamboulement tout début juillet en changeant de Premier ministre. Édouard Philippe, qui était en poste depuis l'élection d'Emmanuel Macron au printemps 2017. Édouard Philippe a regagné Le Havre, où il a été élu maire. Il y a eu les municipales fin juin. Mais Édouard Philippe est parti de Matignon parce que le président a jugé bon de changer d'équipe au bout de 3 ans. Jean Castex est donc désormais aux manettes, nouveau Premier ministre. On va reparler de lui dans un instant, car s'il y a une exception, s'il y en a un qui ne part pas vraiment en vacances, c'est bien lui, le Premier ministre. Pour les autres, pour ses subordonnés, en revanche, tous ces ministres, eh bien, la règle, bien entendu, elle reste d'être joignable et mobilisable à tout moment, suivant la situation. Mais ces ministres, ils ont le droit de quitter la capitale, de quitter Paris. Le mot d'ordre est de rester en France, ce qui est le cas pour tout le monde, sauf le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il a eu le droit à une petite exception. Il passera quelque temps du côté de Madrid, Jean-Yves Le Drian, normalement sa compagne étant espagnole. Pour les autres, des vacances, oui, en France, mais personne n'est frustré avec l'épidémie de coronavirus qui court toujours partout en Europe. Et les chiffres, le nombre de cas positifs qui augmente, c'est le cas en France. Il n'était donc pas question en cet été 2020 de quitter de toute façon le territoire français. Où sont-ils ces ministres? Annick Girardin, ministre de la Mer, nouveau ministère qui vient d'être créé, c'est elle qui sera le plus loin, très très loin même de l'Hexagone, mais on est en territoire français. Ministre de la Mer, Annick Girardin, qui va passer du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'autre côté de l'Atlantique. La Corse à la côte, en ce mois d'août. Alors bien sûr, on est en France, mais ils n'ont pas triché, mais il y a tout de même la Méditerranée à traverser, petit coquin. Marlène Schiappa, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, ou encore Franck Riester ont prévu de passer quelques temps sur l'île de Beauté. Pour le nouveau garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, c'est du côté de Nice qu'il a prévu de se reposer. Elisabeth Borne, nouvelle ministre du Travail, elle sera à l'opposé, la grande diagonale. On arrive dans la Manche, parce que oui, il peut aussi faire très beau dans la Manche et on peut y passer de très belles vacances. Il n'y a pas que la Côte d'Azur. Allez, quelques noms encore pour ces vacances du gouvernement. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, il sera dans les Alpes. Idem pour Florence Parly, ministre des Armées. Roselyne Bachelot, la très médiatique, ministre de la Culture, fraîchement nommée Roselyne Bachelot. Elle a choisi le Pays Basque pour se ressourcer à défaut des festivals d'été qui ont tous quasiment été annulés malheureusement en raison de la pandémie Covid-19.
Et le Premier ministre Jean Castex, où passe-t-il ses vacances ?
Eh bien, c'est ce que nous disions, Jean Castex, il ne désobéit pas au président qui a dit à ses ministres, prenez un peu de distance pour revenir régénérer fin août. Mais Jean Castex, les vacances, il ne connaît pas, il n'en prend pas. Il vient tout juste d'être nommé à Matignon. Lui qui est un homme de devoir, haut fonctionnaire, pas question de déserter en cet été 2020 de tous les dangers avec le virus Covid-19 qui est toujours là, pas question de déserter son poste. Hein. Plus de 1000 nouveaux cas de coronavirus de recensés en moyenne par jour en France en ce moment, avec des situations critiques dans plusieurs départements, de plus en plus de villes qui imposent le port du masque, même dans la rue. Jean Castex, eh bien, il sillonne la France au pas de charge, un minimum de 2-3 déplacements par semaine. Alors certains se moquent de cette hyperactivité. Jean Castex répond, j'ai 55 ans, j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand j'étais maire, on me disait que j'avais la bougeotte. Je ne vais pas changer maintenant que je suis Premier ministre. S'il prend des vacances, eh bien ce sera quelques jours, tout au plus, dans sa ville de Prades, dans les Pyrénées, ville dont il était le maire depuis 2008. Jean Castex, on l'a vu ces derniers jours à Dijon, à Nice, il rencontre des gens, il croit plus que tout au terrain. Ce sont des gens, ce sont les gens sur le terrain qui savent ce qu'il y a lieu de faire, martèle-t-il. Voilà un mois qu'Emmanuel Macron l'a installé à Matignon. Et depuis, il va à la rencontre eh bien, des partenaires sociaux, des soignants, des associatifs. Alors ses détracteurs fustigent un côté un peu vieux jeu, vieille école, ce nouveau Premier ministre Jean Castex, un côté professoral. Oui, il écoute beaucoup, il parle peu, mais avec fermeté et autorité. Mais Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, qui est loin de partager pourtant les idées politiques du Premier ministre Jean Castex, qui est issu des rangs de la droite, hein, classique, Philippe Martinez, CGT, concède, c'est quelqu'un de direct et c'est bien quand on a des choses à dire, à se dire, c'est bien de ne pas tourner autour du pot. Jean Castex est le 21e Premier ministre hein, depuis les débuts de la 5e République en 1958. Il peut faire penser, sous certains aspects, à Jean-Pierre Raffarin, hein, ex-premier ministre Jacques Chirac. On retrouve en tout cas cette bonhomie provinciale, dans le bon sens du terme, cette proximité avec les gens, mais en plus avec un profil pour Jean Castex de haut fonctionnaire. Il a fait toute sa carrière dans l'administration et un côté très carré. C'est lui le chef, il le dit, il n'en a pas peur, je suis le chef, chef du gouvernement, ordre, morale et loyauté, si on devait résumer en quelques mots les qualités du nouveau Premier ministre.
Allez, pour terminer, le président de la République, lui, que fait-il durant ce mois d'août ?
Eh bien, comme chaque été depuis son élection en 2017, Emmanuel Macron a rejoint le fort de Brégançon dans le Var, sud de la France, traditionnel lieu de villégiature des présidents de la République. Le fort de Brégançon, hein, il y a l'Élysée, mais il y a aussi le fort de Brégançon. Quand vous êtes chef de l'État, vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais ce fort, c'est la résidence, on va dire, secondaire du président de la République. Emmanuel Macron va y passer ses vacances, entre guillemets, des vacances calmes et studieuses, précise l'Élysée. Il ne devrait pas y avoir d'apparition publique, pas question de déambuler dans les rues avoisinantes, pas de restaurant en famille, comme cela lui est arrivé de le faire ces dernières années quand il était au fort de Brégançon. Mais là, épidémie de coronavirus oblige, Emmanuel Macron va rester à l'intérieur des remparts, tout au plus font savoir les services de l'Élysée. Eh bien le président en profitera peut-être pour dîner avec l'ex-président Nicolas Sarkozy, qui lui passe son été pas loin de là, du côté du Cap Nègre. Possible également qu'Angela Merkel, la chancelière allemande, passe du côté du fort de Brégançon. C'est à l'étude en tout cas, la France et l'Allemagne en première ligne hein, dans la lutte contre le coronavirus et dans l'application du gigantesque plan de relance qui vient d'être décidé à l'échelle de l'Union européenne, ce plan de 100 milliards d'euros.
Merci Émile d'avoir décrypté l'actu française pour nous cette semaine.
Merci, à bientôt.
À la semaine prochaine. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. Facebook.com www.sbs.com.au/sbsfrench.
Vous écoutez le programme en français dans 36 secondes, direction Adélaïde pour le programme culturel de l'Alliance française de cette ville capitale.
Vos conversations. SBS French.
Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir Raphaël Delaunay qui dirige l'Alliance française d'Adélaïde. Bonjour à vous, Raphaël.
Bonjour Jean-Noël, comment allez-vous ?
Ça va très bien. Parlons peut-être, pour commencer, de la reprise du Festival du film français chez vous. Je pense qu'il se porte très bien. La vie a repris son cours à Adélaïde.
Oui, alors en effet, la vie a repris son cours dans une certaine normalité. On observe toujours, bien sûr, des mesures de distanciation sociale. Mais on a l'immense joie d'avoir pu reprendre le French Film Festival Alliance Française à partir du 14 juillet, enfin depuis le 14 juillet.
Oui.
Et qui, normalement, devait se terminer le 4 août. Mais nous allons pouvoir annoncer des encore sur quelques films qui ont particulièrement bien plu aux spectateurs jusqu'au 12 août. Donc parmi ces films, il y aura Alice et le maire, Aznavour, Les Misérables, Hors Normes, Le Mystère Henri Pic et Roxane pour un public plus enfant.
Et comment faites-vous pour les sessions ? Est-ce qu'il y a une limite pour accueillir les spectateurs dans la salle, dans les salles ?
Oui, ça c'est un sujet qu'on a travaillé avec avec notre partenaire Palace Nova. Les personnes sont invitées à réserver leur ticket en ligne le plus possible et avec la possibilité de choisir leur siège dans la salle, sachant que normalement c'est un siège sur deux.
Ça a l'air de très bien marcher. Et puis ensuite, peut-être on va parler du Term 3 qui est bien parti aussi chez vous à Adélaïde depuis le 20 juillet, je crois.
C'est ça, on a réouvert la semaine dernière avec nos cours sur place, la plupart. Et ça, c'est, je dois admettre, pour l'équipe enseignante, énormément de plaisir de retrouver tous les étudiants. Et les étudiants étaient aussi très très heureux de pouvoir se retrouver ensemble après quelques mois de patience avec des cours en ligne. Néanmoins, certains étaient aussi très contents des cours en ligne et des solutions qu'on a proposées. Et donc, de ce fait, on a gardé quelques classes en ligne pour les étudiants qui préféraient cette modalité.
Et qui habitent très loin d'Adélaïde, j'imagine.
Et pour certains, voilà, qui habitent loin, c'est vrai que c'est un vrai confort. Surtout en hiver, où parfois il fait froid, parfois il pleut. Et voilà, pouvoir rester au chaud chez soi et suivre son cours de français et continuer à apprendre est parfois un certain confort.
Et je pense aussi que les activités culturelles ont bien repris également chez vous sur place à Wayville. Et je pense à cette exposition qui a été inaugurée le jour de Bastille Day.
Oui, alors on a d'une part toutes les activités régulières à l'Alliance française, donc les activités sociales et culturelles que l'on propose aux étudiants pour continuer à être en lien avec la culture française en dehors de la classe. Donc que ça soit par le biais de clubs de lecture, déjeuner-conversation, on met en place des lectures d'histoire pour les enfants aussi, des ateliers de dégustation, enfin, tout un tas de choses. Et puis pour ce trimestre, on a la chance à North Adelaide de pouvoir accueillir une exposition en provenance de la ville de Cherbourg en France. Donc une sélection de peintures en provenance du musée Thomas Henry ont été imprimées en très haute définition et affichées dans la rue, sur les murs, pour rendre l'accès à ces œuvres le plus large possible. Donc le principe, c'est simplement de pouvoir suivre un parcours et découvrir chacune de ses œuvres avec quelques petites explications à côté de chacune d'entre elles. Et toutes les précisions se trouvent sur le site de la ville d'Adélaïde.
Un petit mot sur les dernières nouvelles concernant les célébrations des 110 ans de l'Alliance française.
Effectivement, on avait mis en place 110 activités en ligne pour rester en lien avec la langue et la culture française de chez soi. Mais avec les mesures qui s'assouplissent un peu, on souhaite travailler sur un événement d'ici la fin de l'année, j'espère, d'une peinture murale sur l'un des murs extérieurs de l'Alliance française avec un artiste de street art d'Adélaïde pour célébrer les 110 ans et souligner les relations franco-australiennes.
Et puis Raphaël, on va penser au mois de novembre déjà, car il y a traditionnellement la French Market. Vous pensez à une nouvelle formule qui est en discussion, je pense, pour la mise en place de ce festival, surtout avec les gestes barrières concernant la pandémie?
Oui, alors effectivement, là-dessus, on est très attentif par rapport à l'évolution de la situation en Australie et j'espère pouvoir vous en dire plus très prochainement sur la façon dont on essaiera de trouver comment célébrer ensemble et passer du temps ensemble, mais de façon safe.
Merci Raphaël, et j'invite aussi également tout le monde à consulter le site de l'Alliance française d'Adélaïde pour toutes les dernières nouvelles concernant l'Alliance française.
Merci beaucoup Jean-Noël.
Et à très bientôt.
À très bientôt.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Et enfin, d'émission, un rappel des grands titres de ce mardi. 11 nouveaux décès et 439 nouveaux cas de coronavirus dans le Victoria depuis hier. La police du Queensland a intercepté 3 hommes accusés d'être entrés illégalement dans l'État. L'Organisation mondiale de la santé rassemble une équipe pour enquêter sur la source de l'infection du coronavirus. Mais elle déclare que les origines peuvent ne pas être à Wuhan, en Chine. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. N'oubliez pas de télécharger nos podcasts gratuitement sur sbs.com.au/french. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h, toujours sur les ondes de radio SBS. Et en fin d'émission, on va vous laisser avec cette chanson qui s'intitule « Folie douce », interprétée par Malik Judy et Juliette Armanet en duo. Très bientôt et très belle fin d'après-midi. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.